l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence, place du Capitole. 97.9.
Il est midi, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre magazine de la mi-journée. Avec à mes côtés, j'ai le plaisir de l'accueillir, c'est Anne-Rose Jankovic. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Une belle émission en perspective puisqu'on parlera dans un instant de l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Et on parlera notamment d'une matinée d'information qui est programmée ce samedi.
Oui, sur le thème de la fin de vie et puis d'autres rendez-vous, notamment la messe chrismale qui approche.
Voilà, un moment fort de l'année que vous appréciez particulièrement.
Et oui, parce que tout le diocèse est rassemblé en la cathédrale Notre-Dame de la Cède, donc c'est quand même un temps fort et important dans notre vie diocésaine.
Et c'est mardi prochain, dans une semaine à 18h, on en parlera dans cette émission et puis on parlera également dans notre sujet, on va parler du Moyen-Orient avec vous et votre invité.
Oui, Bruno Gabellieri, délégué diocésain pour l'œuvre d'Orient, qui nous donnera un petit cours de géopolitique qui nous aidera à comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient, en Terre Sainte, notamment ce que traverse le Liban, mais pas seulement, il nous aidera à prendre un peu de recul et nous fera comprendre que pour comprendre ce qui se passe au Liban, il faut aussi regarder ce qui se passe dans les pays autour. Voilà ce que nous propose Bruno Gabellieri dans quelques instants.
À écouter, bien sûr, sur Radio Présence, dans cette émission également, on donnera le journal régional à midi et demi avec Kevin Mouveau qui est d'ores et déjà avec nous pour les titres à la une de l'actu régionale.
Municipal 2026, coup de tonnerre en Ariège. À Foix, la mairie bascule pour 9 voix seulement. Une victoire historique de Jérôme Mathéos qui met fin à 61 ans de socialisme. Autre basculement marquant dans le Tarn. À Castres, le Rassemblement National s'impose dans la ville natale de Jean Jaurès, dans un scrutin très fragmenté. Situation inédite en Aveyron. À Aspierre, aucun candidat au municipal. Une délégation spéciale a été nommée pour gérer la commune. Disparition d'une figure majeure politique. Lionel Jospin est décédé à 88 ans. Jean-Luc Moudenc, Carole Delga ou encore Sébastien Vincini, les hommages se multiplient. Un appel à la solidarité dans les Hautes-Pyrénées. À Abbaye Notre-Dame de Tourneil, les moines doivent vendre 400 kilos de pâtes de fruits pour sauver leur abbaye. Et puis sport avec le rugby à 13. À Cahors, les Cadurciens enchaînent une troisième victoire et confirment leur belle dynamique en championnat.
Merci Kevin Mouveau. Voilà, je rappelle que vous êtes étudiant et que vous êtes avec nous pour le journal régional. On vous retrouvera tout à l'heure à 12h30, étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. À tout à l'heure.
Présence à Aix-les-Thermes, 92.7.
L'actualité dans les diocèses, c'est tous les jours sur Radio Présence. Et aujourd'hui, on s'arrête dans le diocèse de Tarbes et Lourdes avec vous, Anne-Rose Jankovic. Rebonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
À la demande de Monseigneur Mika, une matinée d'information sur les lois concernant la fin de vie aura lieu ce samedi.
Oui, le rendez-vous est donné de 9h à midi à la maison diocésaine, la maison Saint-Paul à Tarbes, avec plusieurs intervenants tout au long de la matinée. D'abord, 3 soignantes d'une équipe de soins palliatifs, un théologien, Monseigneur Jacques Turc, qui est chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, et puis Madame Elisabeth Gadoulet, ancienne présidente du tribunal correctionnel de Tarbes. Tous participeront à cette rencontre. Ils nous apporteront leur éclairage sur les changements et les conséquences de cette loi sur la fin de vie et sur la prise en charge des malades potentiels que nous sommes tous. Voilà l'objectif de cette matinée voulue par notre évêque Monseigneur Jean-Marc Mica et organisée par le service de la pastorale de la santé du diocèse de Tarbes et Lourdes. C'est une matinée ouverte à tous sur ce sujet qui s'est transformé depuis des mois, vous le savez, en un véritable débat sociétal. Pour rappel, cette loi fin de vie est structurée autour de deux volets. D'une part, une loi conçue pour renforcer l'accès et la qualité des soins palliatifs afin de garantir à chaque personne un accompagnement digne jusqu'à la mort naturelle. Et puis, d'autre part, ce volet de la loi visant à instaurer un droit à l'aide à mourir qui ouvre sous condition la possibilité d'un accompagnement médical vers une mort provoquée. C'est pour décortiquer, comprendre tous ces mots et tout ce qu'il y a derrière et tout ce que ça pourrait impliquer pour les soignants et pour les malades que cette matinée d'information, donc ce samedi 28 mars de 9h à midi à Tarbes, est proposée.
Ouais, c'est à la maison diocésaine, donc samedi 28 mars. Dans le reste de l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes, bien entendu, on va évoquer la messe chrismale mardi prochain, 18h, cathédrale de la Cèze à Tarbes.
Oui, le 31 mars, donc le mardi saint à Tarbes, vous l'avez dit, c'est au cours de cette célébration, je vous rappelle, après la liturgie de la parole et l'homélie de l'évêque, que les prêtres renouvelleront leur promesse sacerdotale et les diacres seront également invités à renouveler leur engagement d'ordination, soulignant notamment l'importance de leur rôle dans l'annonce de l'évangile. C'est aussi durant la messe chrismale que l'évêque bénira les huiles saintes, comme chaque année, et consacrera le Saint-Crème. Ces huiles serviront dès les baptêmes de Pâques, dès la nuit de Pâques, et puis ensuite tout au long de l'année pour les sacrements. Alors vous le savez peut-être, le rite de bénédiction des huiles prévoit que l'évêque souffle sur les huiles pour les bénir. C'est toujours un temps fort de cette liturgie, puisque en soufflant sur l'huile, l'évêque du diocèse invoque l'Esprit Saint, cet esprit qui donne la force et l'intelligence aux futurs baptisés. Et puis parmi ces huiles saintes, il y a bien sûr donc cette huile des catéchumènes qui sera appliquée sur les mains et ou sur la poitrine des futurs baptisés, qui symbolise la force et la protection divine, comme si ils étaient des lutteurs de Dieu, en tous les cas des lutteurs aux côtés du Christ, capables de résister à l'esprit du mal. Et puis, puisque nous parlons des catéchumènes, c'est aussi pendant la messe chrismale que l'évêque bénira et consacrera le Saint-Crème, mélange d'huile et de parfum qui servira pour les baptêmes. Donc je vous rappelle quand même que dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, 34 adultes seront baptisés dès la nuit de Pâques. Donc ce Saint-Crème il sera utilisé dès la nuit de Pâques, durant la vigile pascale, le samedi saint. Voilà, donc cette messe chrismale, vous comprenez, c'est vraiment un acte d'unité pour toute l'Église, puisque d'abord elle rassemble l'évêque, tous les prêtres, tous les diacres, les consacrés, tout le peuple des baptisés. Elle permet de s'unir bien sûr à la prière de bénédiction des huiles qui vont porter la grâce des sacrements toute l'année dans toutes les paroisses du diocèse et aussi dans les sanctuaires, puisque comme chaque année, le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes sera présent à cette messe chrismale et repart avec les huiles aussi bénies. Et puis cette messe chrismale, elle invite tous les fidèles à rendre grâce pour le renouvellement des promesses des prêtres et des diacres. Voilà, donc nous sommes tous invités à vivre cette messe chrismale mardi 31 mars en la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes.
Et on encourage les diocésains à aller à la cathédrale à Tarbes mardi prochain. Et pour les auditeurs des Hautes-Pyrénées qui ne pourront pas se rendre à la cathédrale mardi, Radio Présence se mobilise dans le diocèse de Tarbes et Lourdes.
Oui, comme chaque année, Radio Présence sera à la cathédrale pour permettre effectivement, comme vous le dites Gilles, à toutes les personnes qui ne peuvent pas venir ou qui terminent de travailler trop tard et qui ne peuvent pas nous rejoindre. Enfin voilà, les raisons peuvent être multiples. En tous les cas, vous pourrez quand même nous suivre et être en communion de prière grâce à Radio Présence.
Voilà, c'est pour les auditeurs des Hautes-Pyrénées. Allez, on continue cet agenda et on parle à présent de deux propositions de pèlerinage. Alors le premier, c'est sur les pas du Père Chevrier, le second sur les pas de Sainte Thérèse de Lisieux.
Oui, bienheureux Antoine Chevrier, c'est un prêtre français né en 1826 à Lyon. Il a fondé l'association des prêtres du Prado. Aujourd'hui, l'association est présente dans une cinquantaine de pays. Cette famille du Prado, elle comprend également un groupe de religieuses, un groupe de laïcs consacrés, hommes et femmes, et puis divers groupes qui réunissant des diacres permanents, beaucoup de laïcs. Le père Chevrier est décédé à Lyon en 1826. 79 et a été béatifié par Jean-Paul II le 4 octobre 1986. Dans le diocèse de Tarbes et de Lourdes, nous avons plusieurs prêtres membres du Prado et ils proposent un pèlerinage à Lyon, donc sur les pas du père Antoine Chevrier, pour célébrer le 200e anniversaire de la naissance donc de ce père fondateur du Prado. Ce pèlerinage a lieu du 27 au 29 avril prochain, départ depuis Argelès-Gazost jusqu'à Lyon. Les inscriptions sont maintenant et vous êtes invité si vous êtes dans la Haute-Garonne ou dans les Hautes-Pyrénées ou même dans les Pyrénées-Atlantiques à participer donc à ce pèlerinage à Lyon. Toutes les informations pour les inscriptions sont sur le site du diocèse catholique65.fr. Vous pouvez aussi les trouver dans les paroisses. Il faut pour cela contacter tout simplement le père Eugène Rufflet, qui est à Lourdes-Parousse et qui est l'un des prêtres du Prado dans notre diocèse de Tarbes et Lourdes. En tous les cas, vous trouvez tout sur Au Clocher, sur le site catholique65.fr. Et n'hésitez pas, si vous voulez vraiment découvrir un petit peu mieux ce lieu de vie et d'œuvre missionnaire du père Chevrier.
Voilà, vous avez tout dit, vous avez même rappelé les informations pour se connecter au site internet du diocèse. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, parce que j'ai pas tout dit. Oui. On a dit qu'on parlait de deux propositions de pèlerinage. La deuxième proposition de pèlerinage, c'est un pèlerinage tout à fait différent. Cette fois-ci, il s'agit de partir sur les pas de Sainte Thérèse de Lisieux et puis au Mont Saint-Michel. C'est un pèlerinage diocésain pour les jeunes de 18 à 35 ans. Alors, c'est cet été, du dimanche 26 juillet au samedi 1er août. Je vous en parle maintenant parce que les inscriptions pour nos petits jeunes, c'est maintenant. Voilà, viens avec nous découvrir Sainte Thérèse de Lisieux et le Mont Saint-Michel. Là encore, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de mars. Et pour accéder au formulaire d'inscription et avoir toutes les informations pratiques et logistiques, il faut aller sur Au Clocher ou bien, là encore, sur le site du diocèse catholique65.fr. Donc, deux propositions de pèlerinage, un à Lyon pour tous et puis un autre du côté de Lisieux et du Mont-Saint-Michel cet été pour les jeunes de 18 à 35 ans. Voilà. Ça bouge dans les Hautes-Pyrénées.
Ça bouge, oui, il ne faut pas hésiter à se renseigner, vous l'avez dit, grâce aux moyens de communication, site internet ou Au Clocher. Toutes ces informations, on les retrouve sur ces outils.
Exactement, et sur le bulletin diocésain.
Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Un grand merci, Anne-Rose Jankovic.
Merci à vous, Gilles.
Présence. Et Anne-Rose, vous restez avec nous, puisque dans 3 minutes, on vous retrouve avec votre invité. On va parler d'un tout autre sujet.
Et oui, on va parler de ce qui se passe depuis plusieurs semaines, plusieurs mois au Moyen-Orient et en Terre Sainte avec Bruno Gabellieri, qui est le délégué diocésain pour l'œuvre d'Orient. Il va nous aider à y voir un peu plus clair dans toutes ces réalités géopolitiques et pas seulement. Nous parlerons du Liban et de toutes les réalités qui sont autour du Liban. En tous les cas, c'est ce que va nous proposer Bruno Gabellieri, quelques clés de compréhension.
À écouter dans un instant.
J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien, attendre ici que la journée s'achève, sortir le chien, si j'en avais un. J'aurais pu m'inventer des inventaires, refaire et faire le point. Mais ce matin j'ai bien plus cher à faire. Bam da ba da bam. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous ces mots que nous taisons. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou comme ils comptent pour moi chaque instant, de mots doux c'est mieux qu'un. Et les dire c'est important, les dire avant tant qu'il est temps. On veut toujours attendre la prochaine, remettre au lendemain. C'est bien plus simple d'émettre des haines, bien anonyme, tapis dans son coin. Écoule nos vies et l'eau des fontaines, la vie de quotidien. Et passe les jours et puis les semaines, bam bada bada. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci de. dire, c'est important. Le rappeler de temps en temps. J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que la journée s'achève, bam da ba da ba. On devrait dire aux gens quand on les aime, trouver les phrases, trouver le temps, qu'ils changent nos heures amères en poèmes. On devrait tous se dire avant. Il faut le dire aux gens quand on les aime, comme ils comptent pour nous chaque instant. Les mots doux c'est mieux qu'un mot requiem. Et tant qu'on est là,
c'était Patrick Furrier à l'instant pour cette émission avec Anne-Rose Jankovic et son invité en studio.
Présence à Millau 106.5.
Bonjour Bruno Gabellieri.
Bonjour Anne-Rose.
Bruno Gabellieri, vous êtes le délégué pour l'œuvre d'Orient dans le diocèse de Tarbes et Lourdes et vous allez nous aider aujourd'hui à décortiquer un petit peu ce qui se passe au Moyen-Orient et en Terre Sainte, à y voir un peu plus clair. En tous les cas, vous allez nous donner des clés de lecture et de compréhension parce que vu depuis chez nous, c'est un peu compliqué et de fait, hein, tout est un petit peu lié et relié dans ce conflit. On va essayer de comprendre déjà le cadre géopolitique. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on décortique un mot, un nom qu'on entend tous les jours, dans tous les journaux, dans tous les médias, c'est le Hezbollah, dont on apprend, dont on découvre peut-être, en tous les cas, dont on entend chaque jour que eh bien, le Hezbollah se trouve au Liban et que ça c'est un petit peu le nœud du problème. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le Hezbollah? Est-ce que vous pouvez le définir?
Alors, le Hezbollah est difficile à définir et c'est pour ça que c'est une opération à la fois de communication et une opération politique et militaire. Le Hezbollah, aujourd'hui, c'est une force politique au Liban. Une force politique légitime dans le débat démocratique libanais. Ils ont des députés au Parlement libanais, ils ont même des ministres. Ils ont fait partie de coalitions gouvernementales déjà avec le général Aoun il y a quelques années.
Donc c'est une étiquette politique.
Oui, c'est une étiquette politique, le Hezbollah, mais c'est aussi un mouvement religieux. Et le mouvement religieux, c'est le déguisement, je dirais, tout à fait honorable, en apparence, d'une opération politique qui vise à déstabiliser plus Israël que le Liban. Parce que l'ennemi du Hezbollah, numéro un, c'est le peuple et c'est l'État d'Israël. Et pour cela, il faut comprendre d'où vient le Hezbollah. Le Hezbollah est armé, financé par l'Iran, depuis l'origine, comme l'Iran a financé et finance le Hamas aussi bien en Syrie qu'à Gaza. Donc,
Parce que le Hezbollah est étendu un peu partout, là.
Alors, le Hezbollah, en tant que tel, comme entité identifiée, n'est que au Liban. Mais la version, je dirais, cisjordanienne, c'est le Hamas. Et la vision, je dirais, de l'Iran, c'est d'avoir des émissaires armés dans ces pays pour déstabiliser Israël et pour éliminer Israël de la carte politique, puisqu'il faut jamais oublier que le but du régime iranien, c'est l'élimination d'Israël, carrément. Donc, le Hezbollah est ce bras armé au Liban.
Et pourquoi le Hezbollah est installé au Liban? Pourquoi c'est l'endroit le plus stratégique pour le Hezbollah?
Alors, le Hezbollah, dans sa stratégie, a une, je dirais, vision extrêmement efficace. Ils se sont installés au Liban Sud, qui est la frontière nord d'Israël, pour pouvoir effectivement harceler le territoire israélien par leurs fameux missiles. Les missiles qui sont fournis par l'Iran et qui partent du sud Liban régulièrement, alors que on croyait qu'en 2024, l'armée israélienne avait réussi à assainir la situation au sud Liban. Ils le croyaient tous, les Libanais peut-être un peu moins, parce qu'ils savaient bien que le Hezbollah était implanté en profondeur dans les villages chrétiens. chrétien du sud Liban. C'est la technique du Hezbollah, c'est d'être présent dans la population civile de manière invisible, mais suffisamment fort pour pouvoir y entreposer des armes et pour pouvoir y avoir des bases de missiles qui, je dirais, tombent sur Israël.
Donc ça fait des années que le Hezbollah s'est immiscé. Combien d'années ?
Je dirais que ça fait une dizaine d'années que l'Iran a compris que pour harceler Israël de manière efficace, le Liban, qui était une terre d'accueil pour tous les réfugiés de la région, les Palestiniens, les Syriens, les Irakiens récemment, tous sont réfugiés au Liban, qui est effectivement avec une tradition d'hospitalité très forte, car le modèle culturel libanais, c'est effectivement la coexistence pacifique, depuis des années, voire des siècles, entre chrétiens et musulmans, il faut le reconnaître, et cette faculté des Libanais d'accueillir et de pouvoir travailler avec une mixité sociale et culturelle dans un pays en paix, parce que le Liban n'a pas toujours été en guerre, fort heureusement pour eux, eh bien le Liban est forcément trop accessible pour tous les réfugiés.
Donc ces réfugiés ont été accueillis par les chrétiens du Liban comme des frères musulmans, et ils sont devenus des ennemis du Hezbollah.
Et voilà. Exactement.
Incrusté dans la vie de tous les jours.
Exactement. Il faut savoir aussi que lorsque les Palestiniens ont été, je dirais, évacués par les colons en Israël, le refuge, ça n'a pas été la Jordanie. La Jordanie leur a interdit l'accès au territoire. Ça n'a pas été l'Égypte. L'Égypte leur a interdit l'accès au territoire. Ça n'a pas été la Syrie non plus. Ça n'a pas été l'Irak. Ils sont tous partis au Liban. Et finalement, le Liban le plus accessible, c'était le Liban Sud. Donc le Liban Sud, c'est une terre, je dirais, multiple, où vous avez énormément de réfugiés palestiniens. La cible idéale pour les Iraniens qui, évidemment, exploitent le sentiment anti-israélien des Palestiniens qui ont été...
Donc ils cherchent à recruter ici.
Ils recrutent inévitablement dans les Palestiniens. Les Palestiniens ne sont pas tous chrétiens, tant s'en faut. Il y a des Palestiniens, évidemment, musulmans. C'est vers eux que le Hezbollah s'est tourné pour recruter des milices qui sont tantôt... identifiable, tantôt pas du tout identifiable. Et c'est ça la difficulté pour Israël.
Que font les chrétiens aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, les chrétiens, la seule solution qui est pratiquée, c'est rester au sud du Liban, mourir. C'est très clair. Si vous allez sur les radios, sur les télévisions du monde entier, on interviewe des chrétiens qui disent « Nous, on n'a plus du tout d'espoir. En 2024, on est parti. Quand on est revenu, on n'avait plus de maison ou notre maison était occupée. Donc aujourd'hui, on a décidé de rester, même si c'est pour mourir. » Donc ça, c'est, je dirais, terrible à entendre, mais c'est la réalité vécue par les Libanais du Sud, Liban. Et puis les autres, ceux qui gardent un espoir de survivre, eh bien, ils montent vers Beyrouth, ils montent vers le nord du Liban, où là, ils peuvent espérer retrouver la paix. Mais aujourd'hui...
Vous croyez, vous, qu'ils peuvent retrouver la paix à Beyrouth ?
Je dirais que ça a été le calcul de ceux qui se sont réfugiés au nord Liban, d'Irak et de Syrie. Aujourd'hui, avec les bombardements israéliens sur le Liban, on voit un mouvement inverse, c'est-à-dire que des réfugiés de Syrie qui reviennent en Syrie du Liban.
Finalement, ils sont plus en sécurité en Syrie, ce qui paraît dingue.
Aujourd'hui, ils sont plus en sécurité en Syrie. Et alors, je n'ai pas d'informations sur l'Irak, mais on peut imaginer que, puisque l'Irak échappe pour l'instant à la guerre, peut-être que des réfugiés de l'Irak qui sont allés au Liban sont en train de retourner en Irak. Je n'ai pas d'informations là-dessus. On est plus concentré à l'œuvre d'Orient sur ce qui se passe au sud du Liban aujourd'hui, je l'avoue. Mais aujourd'hui, le Liban est en crise politique, économique, sociale, c'est terrible.
Qui aide le Liban ? Qui aide les Libanais ? Quand je pose cette question-là, peut-être qu'on peut me répondre, en bombardant pour en finir avec le Hezbollah caché au Liban, c'est comme ça qu'on soutient et qu'on aide le Liban et les Libanais. Mais moi, je parle de la vie de tous les jours aujourd'hui, là, sous les bombardements. Comment on aide ? Qui aide le Liban et les Libanais ?
Alors, le Liban compte d'abord sur sa diaspora libanaise à l'international. La chance du Liban, c'est que les Libanais qui sont partis aux États-Unis, en Australie, en Amérique du Sud, etc., ils ont un sens du commerce fantastique, ils ont un sens de l'entreprise fantastique. Oui. Ils se sont développés et ils se sont enrichis par leur travail. C'est eux qui financent le Liban aujourd'hui, c'est clair, clair et net. Mais il y a deux pays qui sont traditionnellement des alliés du Liban, c'est évidemment la France, compte tenu de son engagement historique depuis des siècles, c'est aussi les États-Unis qui peuvent pas laisser le Liban non plus accumuler toute la misère du monde. Donc les deux grands pays, c'est la France et les États-Unis aujourd'hui, l'Angleterre beaucoup moins.
Pardon Bruno Gabellieri, après on va marquer une petite pause, mais vous nous dites la France et les États-Unis pour aider le Liban. On a du mal à percevoir aujourd'hui que le Liban est aidé, même par la France et les États-Unis.
Nous ici, à Lourdes, on peut en parler, je dirais, de manière très concrète. Le premier régiment de hussards parachutistes, c'est le régiment français qui, aujourd'hui, sous le drapeau des Nations Unies, avec la FINUL, est la force d'interposition de paix entre Israël et les armées libanaises au nord, mais aussi les belligérants sur le terrain, donc le Hezbollah. La difficulté pour le premier RHP, avec son contingent fort de, je crois, à peu près 700 hommes, c'est de ne pas répondre par les armes à des agressions qui ne vont pas manquer de leur tomber dessus.
Du coup, ils ont quelle latitude pour
travailler ? C'est une force de paix internationale sous mandat des Nations Unies. Ils ont, je dirais, comme première mission, protéger les populations. Je les ai vus visuellement accompagner le convoi humanitaire de l'œuvre d'Orient lors des obsèques du prêtre libanais qui a été tué au sud Liban la semaine dernière. Mmh. Et effectivement, on a vu avec le nonce apostolique du Vatican qui était dans ce convoi humanitaire, on a vu les responsables de l'œuvre d'Orient locaux accompagnés de la FINUL, des casques bleus pour les protéger.
Donc il faut travailler pour la paix à défaut de pouvoir combattre, entre guillemets, la guerre.
Exactement. C'est une mission extrêmement difficile pour les soldats français, mais ils le font avec l'ordre express venu de notre gouvernement.
On marque une petite pause, Bruno Gabellieri, on vous retrouve dans un instant.
Effectivement, Anne-Rose, cette pause, on va la marquer avec le journal régional. Pour cela, eh bien, on retrouve Kevin Mouveau, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Bonjour à tous. Quelques informations inédites sur les municipales pour commencer ce flash. La mairie de Foix bascule par 9 voix en Ariège. Ainsi, Jérôme Mathéos, le vainqueur, met fin à 61 ans de socialisme. Un résultat historique et extrêmement serré. Il l'emporte avec 1726 voix contre 1717 pour Marine Bord. La participation progresse à près de 60%. Derrière, Alexandre Besson recueille 14,6% des suffrages. Les municipales 2026, c'est aussi un basculement à Castres, dans la ville natale de Jean Jaurès. Le Rassemblement national remporte la mairie. Florian Azéma arrive largement en tête avec près de 30% des voix. Il devance Guillaume Arcès et Arnaud Bousquet dans un scrutin marqué par la division de la droite et la majorité sortante. Une victoire facilitée par la présence de 5 listes au second tour. Et puis il y a Aspierre, dans l'Aveyron. Aucun candidat ne s'est présenté aux élections municipales du 15 mars. Résultat, le conseil municipal n'a pas pu être renouvelé. La préfecture a donc nommé une délégation spéciale. 3 anciens agents publics assureront la gestion courante. Leur mission ? Garantir la continuité des services et préparer un nouveau scrutin, prévu d'ici le 15 juin prochain. Décédé à l'âge de 88 ans, Lionel Jospin salue à Toulouse. Une triste disparition, selon le maire Jean-Luc Moudenc, qui rend hommage à cette figure sincère et attachée à l'intérêt général, dit-il. Il souligne un homme fidèle à ses convictions et à une gauche républicaine exigeante. Les deux élus avaient travaillé ensemble sur plusieurs dossiers. La présidente de région, Carole Delga, lui rend aussi hommage. Elle salue un homme d'État, attaché au progrès social et à l'unité. Sébastien Vincini, président du département de la Haute-Garonne, lui a également rendu hommage hier. Insolite, dans les Hautes-Pyrénées, les moines de l'abbaye Notre-Dame de Tourneille doivent écouler 400 kilos de pâtes de fruits pour sauver leur abbaye. Un grand déstockage. L'objectif étant de financer la rénovation énergétique du bâtiment. Une opération urgente, avec une production artisanale mise en vente jusqu'à fin mars. Entre tradition et solidarité, la communauté des moines compte sur la mobilisation des habitants de la région pour préserver ce lieu de vie. Enfin, rugby à 13 dans le Lot. Cahors poursuit sa série de victoires. Les Cadurciens enchaînent une 3e victoire consécutive en National 1. Ils se sont largement imposés sur le terrain de Grattentour, 54-10, avec 9 essais inscrits. Une rencontre maîtrisée de bout en bout. Les Lotois confirment leur dynamique et s'installent en haut du classement après ce nouveau succès convaincant.
Merci à Kevin Mouveau, voilà, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. La suite de cette émission, dans un instant, ça sera encore avec Anne-Rose Jankovic, la suite de cette émission passionnante. Mais pour le moment, eh bien, on marque une pause en musique et puis on se retrouve juste après.
« qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes où mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Au mon pays, au Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Sernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir, c'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé, ma cité gasconne, ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. J'entends encore l'écho de la voix de papa. Seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuile? Au pays, au Toulouse,
vous avez bien évidemment reconnu Claude Nougaro dans ce Présence Midi. Allez, la suite de cette émission, c'est avec Anne-Rose Jankovic et son invité.
Radio Présence à Belmont-sur-Anse, 93.1.
Voilà, nous poursuivons notre entretien avec Bruno Gabellieri, délégué pour l'œuvre d'Orient dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Donc avec vous, Bruno, nous essayons de comprendre ce qui se passe. Alors on a beaucoup parlé du Liban, mais on essaie de comprendre ce qui se passe dans tout le Moyen-Orient. dans tout ça, il y a des déplacés, de nombreux déplacés, on l'a bien compris, vous me parliez avant l'émission de 600 000 déplacés.
Rien qu'au Liban.
Rien qu'au Liban.
Du sud vers le nord.
Du sud vers le nord. Et est-ce qu'ils ont où aller quand ils partent? Est-ce qu'ils savent où aller?
Alors, les seules structures dans lesquelles ils peuvent trouver un abri, c'est toujours les communautés chrétiennes, les congrégations, les couvents, les églises et tout ce que ces églises ont pu générer comme structures scolaires, périscolaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au Liban, il n'y a plus d'école. On est en guerre, c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut survivre. C'est ça la seule règle de vie. Et donc aujourd'hui, tout est fait pour faire que l'accueil des réfugiés soit la priorité numéro un. Et nous, ce que nous avons comme charge en tant qu'œuvre d'Orient, c'est d'aider ces populations déplacées, ces réfugiés. C'est la mission essentielle de l'œuvre d'Orient. Leur venir en aide par effectivement la livraison de nourriture, la livraison de médicaments, la livraison de ce qui permet de vivre. À la fois le gîte et le couvert.
Et ça, vous n'êtes pas empêché par cette action humanitaire?
Alors, c'est compliqué. Je ne peux pas vous dire que ce ne soit pas compliqué. J'ai vu des reportages où les bombes tombent pas loin. Mmh. Et donc, la dernière visioconférence que nous avons faite avec le directeur de l'œuvre d'Orient sur place, Vincent Gélot, il était dans sa voiture. Il ne savait pas très bien s'il n'allait pas recevoir, effectivement, un projectile sur sa voiture. Donc, aujourd'hui, ce que fait l'œuvre d'Orient, c'est tout à fait héroïque dans les territoires, je dirais, zones de combat. Il faut prendre des risques, ils les prennent, mais on essaye aussi de les protéger. C'est-à-dire que tous nos volontaires qui ne supportent pas, je dirais, la pression et la guerre, on les a rapatriés, bien évidemment. Ne reste que ceux qui sont volontaires.
Est-ce qu'on peut regarder ce qui se passe dans les pays autour du Liban, puisque le Liban n'est pas seul, bien sûr. Dans cette guerre. On peut parler de l'Iran, d'Israël, évidemment. De la Jordanie, de la Cisjordanie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on comprenne un petit peu quels sont les affrontements, puis quelles sont les alliances ou les alliances possibles ou potentielles?
Oui, alors la grosse difficulté quand on parle du Liban, c'est que bien évidemment le Liban est au milieu de la zone de conflit du Moyen-Orient. Les grands blocs, on les connaît. C'est l'Iran qui veut évidemment la destruction d'Israël. Ça, c'est le but, je dirais, affiché, officiel. Ils ont la poursuite de la recherche de la bombe atomique dans ce seul objectif. Et je dirais que le seul pays qui est capable de les arrêter aujourd'hui, derrière Israël, c'est les États-Unis. Et ce que l'on a vu, c'est effectivement le déclenchement par le président des États-Unis de la guerre contre l'Iran pour couper à la fois l'armement évidemment du Hezbollah, mais ça c'est la petite conséquence de la stature qu'a prise l'Iran aujourd'hui. Mais l'Iran aujourd'hui, il est allié avec qui? Avec la Russie. Il est allié objectivement avec la Corée du Nord. Il est allié objectivement avec la Chine. Donc c'est pas l'Iran tout seul. Et aujourd'hui, quand on sait que le Hezbollah est financé essentiellement par le trafic de drogue, on est obligé de relier ce qui s'est passé au Venezuela avec l'opération Chavez, parce que tout est lié. Et le narcotrafic, il est transcontinental.
Donc derrière tout ça,
ah oui,
derrière c'est tout le narcotrafic.
Ça, il y a le financement de l'armement et de la guerre, parce que, comme tout le monde le sait, la guerre coûte cher. Et aujourd'hui, la guerre coûte tellement cher que l'opération américaine, je dirais, dans le détroit d'Ormuz et tout autour, eh bien, elle patine tout simplement faute de moyens. Parce qu'aujourd'hui, un conflit comme celui-là consomme énormément de ressources. Et aujourd'hui, vous le savez peut-être, mais l'armée de l'air française est au bout du stock de ses missiles et donc va bientôt plus pouvoir aider les Américains dans leur frappe, je dirais, sur les cibles militaires en Iran. C'est des éléments, je dirais, prosaïques, mais qui montrent bien que la guerre ne peut pas être illimitée. Elle a forcément des limites.
Mais ce qui est terrible, c'est que vous nous dites, Bruno Gabellieri, qu'en fait, finalement, la guerre s'arrêtera quand on n'aura plus d'armes et que tant qu'on est capable d'en avoir et d'en fabriquer, allons-y.
C'est la tristesse que l'on peut avoir, effectivement. Et moi, je suis obligé de faire le parallèle avec ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine, on est bloqué depuis 4 ans dans une opération de guerre qui n'en finit pas. On n'arrive pas à surmonter, je dirais, les résistance et on n'arrive pas à entamer des négociations de paix parce que l'industrie d'armement, bien, je dirais, est derrière. On l'a fait tourner, mais aujourd'hui, on sent bien que c'est plus l'Ukraine la priorité. La priorité, c'est effectivement le Moyen-Orient. Et ceux qui financent, je dirais, l'ensemble des guerres, c'est toujours les mêmes. C'est ceux qui sont à la commande de l'industrie d'armement. Et l'industrie d'armement, ben, il faut effectivement l'alimenter. Aujourd'hui,
il y a des pays qui sont capables de continuer à alimenter leur capacité d'armement.
Ben oui.
Donc on joue pas à armes égales, si je puis me permettre.
Non, c'est clair. Et aujourd'hui, il faut reconnaître, je pense que a été sous-estimée la capacité de l'Iran. Avec son stock de missiles, parce que aujourd'hui, ils continuent d'envoyer des missiles. Ils en ont combien? Je suis incapable de le dire, mais force est de constater que ça continue.
Personne n'avait anticipé ou pu anticiper la capacité d'armement de
probablement pas assez.
Comment ça se fait,
probablement pas assez. Mais vous savez, moi, je me souviens, quand les Russes ont attaqué l'Ukraine, ils ont dit ça va être Kiev en 8 jours. Oui. On l'a vu, ça n'a pas été Kiev en 8 jours. On y est depuis 4 ans. Le président Trump avait dit l'Iran, je liquide l'Iran en 15 jours. On n'y est toujours pas. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'ils pouvaient imaginer.
Donc, ça veut dire que derrière toutes les alliances et toutes les dialogues apparents qu'on voit, finalement, chaque pays, chaque État, un peu dans le secret, se prépare toujours un peu à la guerre en préparant son stock d'armes dans son petit coin.
Je dirais que quand on
pardon, je vous provoque un peu, je fais exprès.
Je dirais que quand on veut la paix, on prépare la guerre. C'est un vieux dicton romain. Et ce dicton romain, je dirais, il vaut pour la défense, mais à mon avis, il ne vaut pas pour l'attaque. Et quand on se lance dans une guerre en tant que, je dirais, puissance attaquante, je pense qu'on est certain de sa supériorité technologique, sa supériorité matérielle, etc., soit, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'Israël est en train de vérifier que la supériorité technologique qu'ils ont ne suffit plus. Ils parlent maintenant, et ils le font, d'une opération terrestre au sud Liban. Les Américains en Iran parlent d'une opération terrestre en Iran. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas contrôler une guerre uniquement du ciel et uniquement par des missiles et uniquement par, je dirais, la technologie, fût-elle la meilleure. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que la conquête du territoire est extrêmement importante. Et le territoire commande finalement beaucoup plus que ce que l'on imagine dans les états-majors.
Les attaques terrestres, elles pourraient s'étendre partout dans tous ces pays, dans toutes ces zones-là, selon vous ?
J'ai entendu dire que les États-Unis ont envisagé une opération amphibie depuis quelques jours. Est-ce qu'ils vont le faire ? Ça veut dire qu'on s'expose à des pertes humaines beaucoup plus conséquentes que quand on envoie des avions, c'est évident, ou donc quand on envoie des missiles. Je pense qu'à ce moment-là, les populations des États en cause commence à réfléchir et commence à se poser des questions sur les buts de guerre finaux. Et bien sûr, on veut la paix.
Et pour vous, le but, c'est quoi ?
Ben, on veut la paix. On veut éliminer la capacité pour l'Iran d'attaquer Israël avec la bombe atomique. Mais comment être sûr que ça va pouvoir être réalisé ? C'est là la difficulté. Et en fait, on s'aperçoit que la résilience du système politique iranien est plus forte que prévu.
Le temps passe, Bruno Gabalieri. Je voudrais quand même que on tourne nos yeux vers Jérusalem, puisque nous avançons aussi dans le temps du carême et que bientôt voilà nous fêterons les rameaux, puis la passion et la résurrection du Christ. Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem aujourd'hui ?
Dans la dernière visioconférence à laquelle j'ai participé pour tous les délégués de l'œuvre d'Orient, on avait un correspondant à Jérusalem. La révélation pour moi, ça a été que pour la première fois depuis des années, Jérusalem a été touchée par les missiles. C'était la première fois qu'il nous en a témoigné que des missiles sont tombés sur Jérusalem. Il nous a expliqué que, en fait, si l'Iran n'avait pas encore lancé de missiles sur Jérusalem, c'est qu'ils avaient peur de toucher la mosquée. Et que donc, ils ont pris le risque, cette fois-ci, d'envoyer des missiles sur Jérusalem au risque de toucher la mosquée d'Omar, et effectivement, qui est un des grands symboles de l'islam. Donc ça veut dire que l'Iran est quand même acculé. acculé, à déployer, je dirais, des arguments de guerre qu'il n'avait pas utilisés jusqu'à présent et qui font bien penser que...
Ils jouent peut-être leur dernière carte.
Ce qui me fait penser le contraire aujourd'hui, c'est que les bombardements sur Jérusalem ont cessé. Est-ce que c'est parce que le fameux dôme de fer israélien est plus efficace? Est-ce que c'est parce que les Américains ont réussi à neutraliser les bases de missiles plus que c'était prévu? J'ai pas d'informations précises là-dessus, mais on peut le supposer. Donc aujourd'hui, effectivement, le principal souci, je dirais, pour qu'on vive, la Semaine Sainte le mieux possible, c'est qu'on puisse ressortir en paix la nuit et le jour à Jérusalem. Alors là aussi, les sirènes retentissent moins. J'ai pas eu de contact avec Jérusalem depuis moins d'une semaine, donc je sais pas aujourd'hui où on en est. Mais j'ose espérer qu'effectivement, les chrétiens de Jérusalem vont pouvoir célébrer dignement la Pâque, comme nous le souhaitons tous.
Oui, parce que ça nous ébranle aussi, parce évidemment. Que c'est la terre du Christ, parce évidemment. Que c'est une terre sainte, évidemment. Et de voir cette terre souffrir depuis des années. Mais là, vraiment, le conflit prend des proportions. Est-ce que d'abord, il y a déjà eu dans l'histoire... des proportions telles que celles qu'on voit aujourd'hui.
Alors la déflagration ou la conflagration aujourd'hui, elle est tellement grande que ça a toujours été plus limité historiquement. Ça a été plus limité en ce sens que la guerre des six jours, par exemple, que tout le monde a en mémoire, ben, c'était limité au territoire israélien. Là aujourd'hui, on sent bien que les bases américaines et anglaises de Chypre ont été bombardées, les Émirats arabes unis ont été bombardés, Dubaï a été fermé à la circulation aérienne. On est dans une dimension géopolitique énorme. Quand on regardera une carte, une map monde ensemble, si vous le voulez, on va voir que les frontières du conflit ne s'arrêtent pas.
Il n'y a plus
de frontières. Et aujourd'hui, on n'est même pas capable de prédire si l'Iran n'est pas capable d'envoyer des missiles beaucoup plus loin. Ils l'ont menacé, ils l'ont dit. Il y a des missiles qui sont allés très loin. On ne s'y attendait pas du tout. Et aujourd'hui, on peut dire que dans toute la région, potentiellement, la Turquie, la Chypre, l'Égypte, toute la péninsule arabique, et on ne parle pas du reste, bien sûr, côté Extrême-Orient, sont à destination des missiles iraniens. Et ça, c'est inquiétant.
Il n'y a pas de frontière à cette guerre et donc ne mettons pas de frontière à nos prières. Non plus.
Et il faut prier pour la paix, absolument. Sinon, c'est, je dirais, une guerre mondiale qui se profile à l'horizon.
Merci beaucoup Bruno Gabellieri, vous qui êtes délégué pour l'œuvre d'Orient dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Merci pour ces clés de compréhension, il y aura encore beaucoup de choses à dire.
Oui.
Je vous propose quand même de revenir quand vous voulez sur les ondes de Radio Présence pour nous éclairer, pour qu'on arrive à vraiment mieux comprendre. Et puis en attendant, bien sûr, restez toujours unis par la prière.
Merci.
Voilà, et merci aussi à Anne-Rose Jankovic, voilà, qui a réalisé cet entretien. Entretien qu'on peut réécouter si vous le souhaitez sur le site internet radioprésence.com.
Présence.
Dans un instant, balade en pays de Lourdes, c'est en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes, et c'est dans 3 minutes.
L'année prochaine, j'aurai 10 ans, je grimperai en haut du cerisier, j'aurai perdu ma 8e dent, je serai ceinture jaune de karaté, j'irai jouer avec les grands, je ferai un bisou à Salomé.
L'année prochaine, j'aurai 20 ans et j'irai parcourir le monde. Premier tatouage, énième amant, la vie sauvage à la seconde. La famille qu'on s'est dessinée, des frangins pour l'éternité.
L'année prochaine, j'aurai 30 ans, j'arrêterai enfin les conneries. Je songerai à faire des enfants, j'en aurai que pour mon chéri. Je serai la meilleure version de moi-même, je serai le bonheur façon challenge. J'aurai des moments accomplis et mes premières séances de tour.
L'année prochaine, j'aurai 40 ans, je m'écouterai enfin. Divorcé de ces engagements qui ne me ressemblaient en rien. Je ferai des excès, mais sereinement, en me disant que j'ai tout mon temps, qu'ils me vont bien, mes 40 ans.
L'année prochaine, j'aurai 50 ans. Est-ce que c'est grand, est-ce que c'est vieux? Même si mes genoux m'annoncent le temps, je cours toujours plus vite que mon vœu. Je regarde les oiseaux s'envoler et à chaque saison repasser.
prochaine, j'aurai 60 ans. Je donnerai raison aux insomnies.
Je donnerai raison aux petits enfants, plus souvent à leur mamie.
Face au miroir, il est grand temps que j'aie enfin de compromis.
Ma vie ne sera plus belle qu'avant.
Ma vie aussi.
Les années filent comme des secondes, je n'ai même pas vu passer le temps.
Même si j'ai fait le tour du monde, qu'est-ce que j'ai compris du présent?
Qu'est-ce que j'ai retenu de la ronde? Des hommes, des femmes et des enfants. Que la vie, mon grand, oui la vie, mon grand.
On a fait le tour du monde, qu'est-ce qu'on a compris du présent?
Qu'est-ce qu'on a retenu de la ronde?
Des hommes, des femmes et des enfants.
Que la vie, mon grand, oui la vie, mon grand,
c'est mon.
Présence dans le Lauragais 97.9.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
On va maintenant emprunter le chemin de Bernadette avec Laurent de l'Office de Tourisme. Bonjour Laurent.
Bonjour Gilles.
Très heureux de vous retrouver pour parler donc des chemins de Bernadette. 14 totems explicatifs sur les lieux qui retracent la vie de Bernadette Soubirous à Lourdes.
Exactement. Donc aujourd'hui, je vous emmène en fait marcher. Alors pas n'importe où, hein. Je vous emmène marcher sur les pas de Bernadette Soubirous, sur un tout nouveau parcours immersif qui vient d'être mis en œuvre en fait par la ville de Lourdes. Son nom, donc, c'est bien le chemin de Bernadette.
Et donc 14 totems explicatifs, et puis il y a aussi des spots vidéo à télécharger. On va en parler dans un instant, mais peut-être pour les auditeurs, on peut expliquer où sont ces totems explicatifs pour qu'ils retracent la vie de Bernadette.
Exactement. Alors c'est un itinéraire de 4 km en cœur de ville qui avait déjà été inauguré il y a de cela 2 ans, si je dis pas de bêtises, et donc balisé au sol par des clous en laiton. Ça, c'était la première partie du travail, voilà, qui avait été mise en œuvre. Et là maintenant, donc, ont été positionnés les totems, donc sur en fait tous les espaces de vie que Bernadette a pu en fait connaître, donc sa maison natale, la maison où elle vivait du temps des apparitions, mais aussi on va retrouver l'église paroissiale, on va retrouver en fait le musée Sainte-Bernadette, on va retrouver le pont Saint-Michel, enfin différents endroits soit contemporains de son époque, soit qui sont en lien en fait avec elle forcément.
Alors 14 lieux, et puis il y a aussi des totems explicatifs avec des messages audio et aussi des spots vidéo à télécharger.
C'est justement ça la nouveauté, donc ce qui fait la force de ce parcours, c'est sa dimension immersive. Ça veut dire effectivement que déjà c'est ouvert à tout public, c'est opérationnel 24h/24, donc on peut aller quand on veut en toute saison. C'est aussi accessible pour les personnes à mobilité réduite, même si on connaît Lourdes, il y a quand même quelques pentes, mais c'est faisable. Et c'est aussi un outil adapté en fait aussi à différents type de handicap, puisqu'il est adapté avec une partie FAL, qu'il est adapté puisqu'on a aussi des textes en fait audio, donc pour les malvoyants en fait c'est aussi facile d'écouter. Il est en 7 langues, voilà, et donc les totems expliquent en fait une partie de l'histoire. On peut via le QR code en fait télécharger en fait l'audio de ce qui est expliqué, donc on va l'avoir dans les différentes langues: français, anglais, espagnol, italien, néerlandais, allemand et polonais de mémoire, voilà. Et on a surtout 5 étapes clés où là par contre on va aller un peu plus loin. Le QR code va ramener sur une vidéo en fait en 360 qui a été tournée en fait l'automne dernier, et là du coup vous retrouvez un clin d'œil en fait dans le Lourdes du 19e siècle, à l'époque de Bernadette, au Moulin, dans les rues du bourg, enfin voilà, différents endroits, et là on plonge réellement dans la vie à l'époque du temps de Bernadette.
Alors ces vidéos, ce sont des reconstitutions donc du temps de Bernadette, et on peut noter qu'une des actrices qui joue le rôle de Bernadette est bien connue à Lourdes.
Oui, alors c'est Emma du spectacle musical Bernadette de Lourdes en fait qui a gentiment accepté de prêter en fait son visage et sa voix à ces vidéos, et donc elle s'est prêtée au jeu, et donc on va la retrouver effectivement sur quelques vidéos immersives expliquant un peu tout ça.
Vous l'avez dit, c'est un service donc qui est forcément disponible 24 heures sur 24. À noter que c'est gratuit, c'est assez simple d'utilisation. On flash un QR code et on tombe directement sur les messages audio ou vidéo.
Exactement, c'est très simple d'utilisation, il n'y a pas vraiment d'application à télécharger, il suffit juste de flasher, ça fonctionne rapidement sur les téléphones portables. Et en même temps, on a aussi équipé sur les vidéos immersives de relais Wi-Fi en fait, où les gens pourront aussi se connecter pour avoir en fait toute la puissance qu'il faut pour charger les vidéos. Voilà, donc c'est vraiment un projet qui vise à réinventer la destination tout en préservant son âme en fait. Voilà, l'idée c'était qu'on reste bien dans les traces de Bernadette, sans dénaturer, mais en venant rajouter en fait des éléments un peu plus contemporains au niveau de l'animation et de la pédagogie.
Ça s'appelle le chemin de Bernadette. Donc ça se trouve évidemment à Lourdes, hein, sur 14 lieux différents. On peut se renseigner, si on le souhaite, auprès de l'Office de tourisme de Lourdes.
Exactement. On a les informations sur le site web aussi. Voilà, on va tout trouver. Et on attend donc les visiteurs et on attend aussi les retours des gens. On espère qu'ils seront positifs. Voilà.
Un grand merci Laurent de l'Office de Tourisme et à très bientôt pour une nouvelle chronique Balade en Pays de Lourdes.
Merci Gilles, à bientôt à Lourdes.
Balade en Pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence, il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller ? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Présence.
Tu ma belle qu'un jour fatigué j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour. Sur la bouche, je t'emmène hors des villes, en un fort, une presqu'île. Oubliez nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles. On irait y attendre la fin des combats. Jeter aux verres, au retour, tous nos plus beaux discours. Ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas. Et devenir de la toile de Nîmes, qu'entre nous il y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses, que nos liens s'élargissent, des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses, des jardins fertiles. Et nos belles différences.
Présence à Saint-Gaudens 94.1
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Ce n'est pas une surprise, mais une confirmation. Le ministre israélien de la Défense annonce qu'Israël va occuper